Radio Mouqueuse, Radio Mouqueur, bonjour. Je m'appelle Lisa Bellinghausen, je suis consultante partageur et docteur en psychologie. Ma passion, c'est l'émotion. L'émotion est le fil conducteur de toutes mes interventions. C'est ma clé pour comprendre et agir sur les situations individuelles, collectives et organisationnelles. Au risque de vous étonner, je suis convaincue que toute émotion soutient la performance. La tristesse, par exemple, est un allié précieux en situation d'échec. Elle permet d'en analyser précisément les causes et de regagner l'énergie nécessaire pour rebondir. La fierté, quant à elle, permet de renforcer la cohésion du groupe et mobilise les compétences de ses membres. Transformer les individus et les organisations par une gestion intelligente des émotions est le cœur de mon métier depuis plus de 10 ans. Dans le cadre de cette petite session bonus, je vous propose d'approfondir vos connaissances au niveau des stratégies de régulation émotionnelle. Mais qu'est-ce que c'est au juste la régulation émotionnelle? Réguler les émotions est un processus d'influence et de modification des émotions. Ce processus est hautement automatisé. Nous le pratiquons de manière plus ou moins consciente plusieurs fois par jour. Respirez profondément pour apaiser une émotion naissante. Pensez à quelque chose d'agréable plutôt que de penser à ce qui est en train de se passer. Positiver ou encore relativiser sont autant d'exemples de ces stratégies. Quand nous parlons régulation des émotions, il convient de distinguer deux choses, les visées ou objectifs de la régulation et les stratégies à proprement parler. C'est tout comme dans d'autres domaines. Imaginez que vous souhaitez évoluer dans votre poste. Il s'agit ici d'un objectif. Pour atteindre cet objectif, vous allez mettre en place des stratégies. Vous pouvez vous engager dans une formation pour vous perfectionner ou encore vous engager dans une démarche de développement personnel. On voit ici que les stratégies sont au service des objectifs. Avec la régulation des émotions, cela se passe de la même manière. Nous pouvons distinguer 4 objectifs de la régulation émotionnelle. Le plus souvent, les individus modifient 2 paramètres, l'intensité et la durée. Classiquement, ils cherchent à atténuer l'impact des émotions négatives et à augmenter ou à prolonger la présence des émotions positives. Mais les cas de figure inverse existent également. Dans certaines situations, il est au moins aussi important de savoir augmenter et de faire durer une émotion déplaisante. Voici 2 exemples. Dans des situations de brainstorming, il importe de savoir s'activer des émotions déplaisantes de moyenne intensité et de les faire durer le long de la réunion. Ces émotions stimulent la recherche des idées nouvelles, originales et adaptées au contexte. Un autre exemple concerne les situations de négociation. Dans le cas où votre interlocuteur a toutes les cartes en main, il convient par exemple de montrer de la tristesse modérée pour activer l'empathie chez l'autre. Ainsi, vous augmentez vos chances d'obtenir davantage de concessions. Nous venons de voir 2 objectifs de la régulation émotionnelle, l'intensité et la durée. Intéressons-nous maintenant à l'objectif de la modification du type de l'émotion. Prenons le cas suivant. Vous venez d'apprendre une très bonne nouvelle et vous êtes particulièrement joyeux. Toutefois, dans votre agenda est programmé un rendez-vous qui requiert toute votre vigilance et concentration. Dans ce cas précis, une régulation stratégique s'impose. En effet, la joie conduit à une baisse de la vigilance ainsi qu'une baisse de la pensée productive. Pour contrer ces effets, vous pouvez alors délibérément baisser l'intensité de la joie et activer l'inquiétude modérée ou de la tristesse modérée. Ces émotions seront support à l'activité en question. En effet, l'inquiétude modérée stimule la vigilance et amène à revisiter les certitudes. La tristesse favorise le traitement en détail des choses. Vous pouvez ainsi enrichir votre état émotionnel initial de joie par les émotions d'inquiétude et de tristesse modérées pour élargir votre spectre adaptatif. Une dernière visée consiste à agir sur l'une des cinq composantes de l'émotion. Je peux ainsi moduler mon expression faciale et posturale pour m'induire un état émotionnel particulier. Pour ressentir de la fierté dans une situation de performance, je peux par exemple me redresser, lever le menton et par là même m'activer cette émotion qui favorise le sentiment de compétence. Autre exemple, pour apaiser une émotion naissante telle que l'agacement ou l'inquiétude, je peux pratiquer la respiration ventrale pour activer le système parasympathique, système qui œuvre pour la tranquillité, la relaxation et le relâchement. Nous venons de voir que la régulation émotionnelle est un processus que les individus utilisent pour modifier les émotions qu'ils vivent, moduler leur durée, leur intensité ou encore leur manifestation. Mais comment font-ils concrètement? Quelles stratégies peuvent-ils déployer pour modifier ces différents paramètres? C'est ce que nous allons voir maintenant. En référence à la définition de l'émotion comme processus multicomposante, les émotions peuvent être régulées à chacun des moments de ce processus. Gross, en 1999, dans son modèle de la régulation émotionnelle, retient ainsi deux grandes catégories de stratégies de régulation. Les stratégies centrées sur les antécédents et les stratégies focalisées sur la réponse en tant que telle. La régulation émotionnelle centrée sur les antécédents fait référence aux stratégies déployées relativement tôt dans le processus de génération de l'émotion. Elle intervient en amont du déclenchement proprement dit de l'émotion et consiste en la modification de l'impact émotionnel d'un stimulus donné. Cette régulation permet l'anticipation et le contrôle de la réponse émotionnelle. Un processus de sélection et d'influence de la situation et des cognitions est alors mis en place en vue de prévenir des émotions non désirées ou d'augmenter, faire durer des émotions désirées. Quatre formes de régulation émotionnelle sont à distinguer au sein de cette famille. La première concerne la sélection de la situation. Nous connaissons en grande partie les situations qui nous déclenchent des émotions plaisantes et qui nous déclenchent des émotions déplaisantes. Ainsi, nous pouvons mettre en place des stratégies qui nous permettent de rechercher les situations sources d'émotions plaisantes et d'éviter les situations sources d'émotions déplaisantes. Une personne peut, par exemple, décider de ne pas aller à une soirée pour éviter une personne qui pourrait la rendre triste ou la mettre en colère. Inversement, une personne peut rechercher la compagnie d'une autre qui la fait se sentir bien. Intervient ici une analyse des bénéfices court, moyen et long terme. En effet, une personne peut par exemple choisir d'affronter une situation désagréable à court terme, comme par exemple de passer des examens ou de s'engager dans une formation continue en parallèle de son travail, mais pour en profiter à long terme, par exemple une évolution professionnelle. Une deuxième stratégie concerne la modification de la situation elle-même. Ici, un individu peut par exemple changer la situation pour moduler son impact émotionnel. Reprenons l'exemple donné précédemment. Une personne peut par exemple décider d'aller à une soirée accompagnée d'un ou d'une amie afin d'augmenter ses capacités à faire face. Dans un contexte professionnel, une personne peut par exemple décider de se faire accompagner par une personne ressource lors d'une intervention ou d'une conférence. Cette personne augmentera les chances de la personne à faire face à la situation. Une troisième catégorie de stratégie concerne le déploiement attentionnel. Cette stratégie consiste à modifier l'impact émotionnel d'une situation en focalisant de manière sélective son attention ou en ignorant consciemment certains éléments de la situation. Un individu peut par exemple réorienter son attention vers les éléments non émotionnels de la situation, où il peut se souvenir ou penser à des choses sans rapport avec l'état émotionnel non désiré. Changer le focus attentionnel permet souvent de couper net la montée en termes d'intensité de l'émotion. Les stratégies suivantes ont été également identifiées comme efficaces. La refocalisation positive, c'est-à-dire de penser à des choses agréables pour se distraire, ainsi que la refocalisation en termes de plan d'action. Ici, l'individu focalise son attention pour établir les étapes pour faire face et gérer l'événement. Une quatrième stratégie, centrée sur les antécédents, concerne la réévaluation cognitive. En vue de désamorcer ou d'augmenter certaines émotions, les individus peuvent changer de point de vue ou réévaluer la situation en se focalisant sur les aspects positifs que celle-ci comporte. Une autre manière de réévaluer une situation consiste à revoir les objectifs et les enjeux que nous nous y étions fixés. Pour vous donner un exemple, un individu peut ressentir de la colère pour ne pas avoir été salué par un collègue le matin. Une réévaluation cognitive peut consister à dire que la personne ne l'a pas fait consciemment, qu'elle n'a peut-être pas été bien réveillée, ou encore qu'elle a été tout simplement absorbée par ses pensées. Toutes les stratégies de réévaluation cognitive ne sont pas également efficaces. Par exemple, les stratégies de suppression de l'émotion sont identifiées comme critiques. En effet, l'émotion risque de revenir en boomerang. Ce n'est pas parce qu'on évite de penser à une émotion que celle-ci va être effectivement atténuée. Les stratégies de catastrophisation, c'est augmenter explicitement les aspects négatifs de l'événement. D'autocritiques ou d'hétérocritiques sont également évaluées comme non efficaces. Les stratégies retenues comme efficaces sont par exemple la réévaluation positive, c'est-à-dire l'interprétation des événements négatifs sous une forme positive, et la réévaluation des enjeux et des objectifs de la situation, conduisant à la mise en place de plans d'action concrètes. Christophe Haag vous a déjà parlé de cette famille de régulation qui en effet revêt une importance toute particulière puisque l'émotion est déclenchée en grande partie par notre manière de voir le monde. Donc c'est une stratégie particulièrement intéressante. Je vais vous parler maintenant de cette deuxième catégorie de stratégies qui sont les stratégies de régulation émotionnelle centrées sur la réponse émotionnelle. Ces stratégies interviennent relativement tard dans le processus de l'émotion, c'est-à-dire une fois que l'émotion est pleinement déclenchée. Ce type de régulation implique la modification d'une ou de plusieurs des composantes de l'émotion. Christophe a partagé avec vous autour de la stratégie de supprimer l'expression émotionnelle, c'est-à-dire d'afficher un visage plutôt neutre qui ne laisse pas présager de l'émotion que nous ressentons. Gardez en tête que cette stratégie peut être efficace à court terme, mais que l'émotion doit être traitée plus tard. Sinon, le risque, c'est qu'elle va s'enquister et s'amplifier. D'autres exemples de régulation centrés sur la réponse sont la régulation de la composante physiologique. Ce sont notamment les méthodes de relaxation et de biofeedback qui vont permettre d'apaiser notre corps et d'induire une relaxation, ce qui va atténuer les émotions notamment déplaisantes et favoriser l'activation des émotions plaisantes. La régulation de l'expérience émotionnelle peut impliquer la concentration ou la suppression des idées accompagnant l'émotion. Comme nous l'avons déjà précisé, la suppression consciente de certaines pensées liées aux émotions peut paradoxalement faciliter leur retour. Nous avons aussi déjà parlé de la régulation comportementale. En effet, certaines situations requièrent que nous travaillions cet aspect. Prenons le cas où nous sommes dans une situation plutôt désagréable face à un interlocuteur où nous ressentons peut-être de la colère ou de l'inquiétude et nous sommes plutôt dans des attitudes et des comportements de retrait. Ici, adopter une attitude d'ouverture à l'autre, attitude revêtant de la fierté ou de la joie, peut s'avérer adapté. Une dernière famille de stratégies de régulation, un peu à part, est le partage social de l'émotion. Tout de suite, après l'éveil d'émotions positives ou négatives, certains individus sont enclins à partager leurs états émotionnels avec les autres, ce qui a pour effet de modifier leur état émotionnel. Cette stratégie a la particularité de pouvoir intervenir à tous les niveaux du processus émotionnel décrit par Gross. Nous pouvons par exemple faire appel à une autre personne pour nous aider à affronter une situation, à développer nos capacités à faire face ou encore à réévaluer la situation. L'autre nous permet souvent de changer de perspective et d'apprécier de nouveaux éléments. Je vais maintenant conclure. Nous venons de voir la régulation émotionnelle, et notamment avec ces deux aspects, les visées de la régulation émotionnelle et les stratégies. D'un point de vue développemental, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier dans un premier temps nos stratégies préférentielles. Quelles sont les stratégies que nous utilisons de manière automatique le plus souvent ? Ensuite, l'enjeu va être de développer de nouvelles stratégies pour pouvoir, au fur et à mesure, agir avec plus d'agilité à chacune des étapes du processus émotionnel, et ce sur une palette de plus en plus élargie d'émotions. C'est cet alignement et cette agilité qui permettra de conjuguer performance et bien-être. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.